dans le chapitre 1 des cantiques, du Cantique des Cantiques. Qu'il m'embrasse à pleine bouche, car tes caresses sont meilleures que du vin, meilleures que la senteur de tes parfums. Ta personne est un parfum raffiné. C'est pourquoi les adolescentes sont amoureuses de toi. Entraîne-moi après toi. Courons. Le roi me fait entrer dans sa chambre. Soyons heureux et joyeux grâce à toi. Célébrons tes caresses plus que du vin.
Que tu es belle, mon amie, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes.
Que tu es beau, mon chéri, combien gracieux, combien verdoyante est notre couche. Les poutres de notre maison sont les cèdres, et nos lambris les genévriers.
Comme un lys au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles.
Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon chéri parmi les garçons. À son ombre, selon mon désir, je m'assieds, et son fruit est doux à mon palais. Chantant mon chéri, le voici, il vient, sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines, mon chéri est comparable à une gazelle ou à un faon de biche. Le voici, il s'arrête derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon chéri chante et me dit, « Debout-toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en, car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive, et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. Le figuier mûrit son fruit vert et les cèpes en bouton donnent leur senteur. Debout-toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. » Saisissez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que notre vigne est en bouton. Mon chéri est à moi, et je suis à lui qui paît parmi les lys, d'ici que le jour respire et que les ombres soient fuyantes. Retourne-toi. Sois comparable, mon chéri, à une gazelle ou à un faon de biche sur des monts séparés. Je continue au chapitre 3. Sur mon lit, au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais ne le rencontre pas. Il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville, dans les rues et les places, que je cherche celui que j'aime. Je le cherche, mais je ne le rencontre pas. Il me rencontre les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, vous l'avez vu? À peine les ai-je espacés que je rencontre celui que j'aime. Je le saisis et ne le lâcherai pas que je ne l'ai fait entrer chez ma mère dans la chambre de celle qui m'a conçue.
Et nous continuerons chapitre 4. Que tu es belle, mon amie, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux. Aucune d'elles n'est stérile. Que de charme dans ton amour! Ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel de ma fiancée, ma fiancée. Il y a sous la langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban.
Le cantique des cantiques. C'est en hébreu simplement un superlatif. Donc c'est le plus beau des cantiques. C'est the cantique. Le cantique avec un grand C. Alors avec pour thème les cantiques dans la Bible, pour ces cultes d'été, on ne peut pas passer à côté du cantique. Je me souviens au cathé quand j'avais 17 ans comme ça, un pasteur nous avait dit, voilà, le Cantique des Cantiques, c'est un livre interdit aux moins de 18 ans. Alors évidemment, on s'est tous précipités pour le lire, parce que le Cantique des Cantiques, vous l'avez bien entendu, c'est un chant d'amour, et rien qu'un chant d'amour. Et l'amour, c'est la plus belle des choses. Les plus beaux romans, les plus beaux opéras, la plus belle musique, les plus beaux films, dans toutes les civilisations, je pense, sont souvent des œuvres qui chantent l'amour, et la Bible ne fait pas exception. Et pourtant, ce chant d'amour, en plein cœur de notre Bible, nous interroge. Ces mots sont tellement humains, disait Ruth l'autre jour en préparant, des mots bruts, des mots dont on ne sait pas que faire parce qu'ils sont tellement crus parfois. Et puis surtout, rien sur Dieu. Pas un mot sur Dieu dans ce cantique. Rien que de l'amour au sens le plus charnel du terme, vous l'avez entendu, l'amour sensuel, la tendresse physique de deux êtres qui se désirent. Vous avez entendu, on parle de caresses, de baisers, on parle d'enivrement des sens à toutes les lignes. On trouve des allusions très belles, mais très très claires, à l'amour charnel. Il y a un petit exemple, et ceux qui sont explicites, j'ai pas besoin de l'expliquer, mais il y en a un qui est très amusant, c'est en 2,15, l'histoire des petits renards. Vous avez entendu, les renards qui ravagent les vignes. Eh bien, le verbe ravager, c'est la même racine en hébreu que être enceinte. Donc c'est très très clair, surtout quand on sait que la vigne est le lieu par excellence de la fertilité. Voilà, tout ce genre de jeu de mots qui sont, dont ce cantique est truffé. Et puis, il y a ces mots, surtout, qui reviennent sans cesse, qui sont traduits par « mon chéri » par la Tobe. La Bible seconde traduit « mon bien-aimé ». C'est une racine très rare, sauf dans le cantique, qui a rapport, en tout cas, dans l'Orient ancien, avec un dieu de la fertilité. Et donc, qui renvoie très clairement à quelque chose de charnel. C'est un mot qui est aussi à l'origine du mot mandragore ou la pomme d'amour. C'est un fruit aphrodisiaque dont on parle évidemment dans le cantique, mais dont on parle aussi en Genèse 30 avec l'histoire que vous connaissez peut-être de Rachel et Léa. C'est la course à l'amour avec Jacob. Et puis Léa arrive à enfin avoir ses pommes d'amour, ses mandragores, pour obtenir un petit peu de l'amour de Jacob, et Rachel s'arrange pour les lui piquer. Enfin, il y a toute une histoire autour de ces pommes d'amour. Donc ces deux amoureux du cantique, ce sont des amants complètement humains qui se désirent et qui cherchent à vivre, à se rencontrer. Alors, j'ai parlé d'amour, reste à parler un petit peu de Dieu quand même. Avec cette première question, donc, qu'est-ce que vient faire ce texte dans la Bible? Et puis, une deuxième qui est conséquente, c'est que, c'est qu'est-ce que peut nous apporter la lecture de ce texte un dimanche matin pendant un culte? Alors, d'abord juste pour le savoir, si le Cantique des Cantiques figure parmi les textes sacrés du judaïsme et du christianisme, c'est vraisemblablement parce que les savants qui ont collectionné ces écrits bibliques ont eu conscience que la relation particulière entre un homme et une femme fait partie des questions profondes de la vie, au même titre que l'origine du monde, que le mal, et qu'il fallait absolument conserver ce texte parce qu'il disait quelque chose de fondamental sur la vie humaine. Et puis aussi tout simplement parce qu'on a eu conscience que le cantique est un joyau littéraire qu'il fallait absolument conservé. C'est un diamant ciselé dans la langue hébraïque, ce cantique. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il fallait conserver. Et puis surtout, si on l'a placé au cœur des textes sacrés, après des longues discussions, d'ailleurs ça n'a pas été tout seul, le cantique a été accepté très tard et vraiment par les poils dans le canon hébraïque. Mais si finalement on a décidé de le mettre dans le canon et si les théologiens chrétiens ont décidé de le conserver également, c'est parce qu'on a voulu peut-être indiquer par ce chant, au-delà des siècles, jusqu'à nous aujourd'hui, que ce mystère du désir qui attire les hommes et les femmes l'un envers l'autre a quelque chose de sacré, a quelque chose à voir avec Dieu. Alors pendant des siècles, les Juifs, tant que les chrétiens, ont été quand même un peu embarrassés par ce texte, et pour s'en sortir, ils ont très souvent interprété le cantique comme une allégorie, comme une image de ce que peut être la relation de Dieu et entre Dieu et les humains, comme une manière de dire que Dieu aime son peuple et son Église, comme l'amoureux chérit sa belle, que le peuple de Dieu est également appelé à aimer son Dieu, comme la Shulamite aime son roi. Et quand on parle de l'Église épouse du Christ, c'est bien dans cette ligne qu'on s'inscrit aussi. Et alors, il y a dans ces textes, dans ces interprétations du cantique, des pages extraordinaires, notamment de moines du Moyen-Âge et d'un certain Bernard de Clairvaux, peut-être que vous connaissez ses écrits, c'est des sermons sur le cantique extraordinaires qui montrent que la vie monastique est une quête du même ordre que la quête de la femme du cantique. Vous avez entendu dans ces extraits ces amants qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent pour se reperdre, etc. Cette quête mystique qui était vraiment l'image pour les moines de la quête mystique, du désir qui pousse l'homme vers Dieu. Une quête longue, une quête difficile parfois lorsque l'autre semble se cacher, mais une quête qui aboutit à une union merveilleuse, une union que les moines appellent l'union mystique de l'homme avec son Dieu. Alors cette quête des moines du Moyen-Âge, je pense qu'elle est aussi la nôtre aujourd'hui. À nous qui cherchons de toutes nos forces à comprendre, à vivre avec ce Dieu qui parfois se cache. À nous qui sommes ici un dimanche matin, alors qu'on est en plein été, alors qu'on pourrait aller faire une balade, peut-être pas se baigner, mais enfin, si, peut-être quand même. Aller en tout cas pique-niquer en montagne avec un sac à dos. Et nous sommes ici plutôt à célébrer notre Dieu. Nous qui nous engageons pour nos églises, nous qui prions, qui lisons notre Bible, qui cherchons à partager notre foi avec d'autres, dans un terrain qui parfois nous semble si aride. Alors dans ce chemin que nous suivons tous, à la recherche de Dieu, de l'amour, à la recherche du bonheur, le cantique est peut-être là, au milieu des textes sacrés, pour nous rappeler une chose essentielle. Sans ce désir qui pousse l'homme et la femme du cantique l'un vers l'autre, il n'y a pas de rencontre possible. Il n'y a pas d'amour, pas de bonheur, il n'y a pas de vie. Sans ce désir très semblable au désir amoureux qui nous pousse vers Dieu, il n'y a pas non plus de rencontre possible avec notre Dieu. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Rendez-vous compte. La rencontre avec Dieu n'est pas une discipline ennuyeuse qu'il s'agirait, pas seulement une discipline, en tout cas pas ennuyeuse, qu'il s'agirait de s'imposer. C'est pas des trucs impossibles qu'il faut faire tous les jours, exigeants, difficiles et lourds, ou je sais pas quoi. Bien au contraire. La rencontre avec Dieu est le fruit du désir. Et ça, c'est une immense libération. Au lieu de se dire, il faut que je lise la Bible, que j'aille au culte, que je fasse ci ou ça, ben voilà qu'on est appelé à être comme la Shulamite, qui guette son amoureux, qui se réjouit Je vous relis ces versets extraordinaires où on la voit attendre, on l'imagine attendre là derrière une fenêtre. Et puis d'un coup, elle dit, j'entends mon chéri, le voici. Il vient sautant par-dessus les monts, bondissant par-dessus les collines. Elle est toute heureuse de retrouver son amoureux. Et le voici, il s'arrête derrière notre mur, il regarde par la fenêtre. Ces instants où elle attend son, où elle désire et elle est heureuse de retrouver son amoureux. Et ce désir, c'est le désir de vie, un désir qui est dans tout être humain quelque part. C'est le désir de la vie qui nous pousse en avant. C'est un désir qui ressemble au désir du bébé qui réclame le lait de sa maman. Le désir de l'enfant qui veut un bonbon, le désir d'une femme que je suis qui voudrait bien un nouveau sac à main. Ou bien tous ces désirs qu'on peut vivre au quotidien. Tous ces désirs qui sont finalement la préfiguration du désir le plus beau, le plus grand de toute notre existence humaine. Le désir d'aimer, le désir d'être aimé. Ce désir qui nous conduit sur les chemins du sacré et qui donne lieu au plus beau des chants. Je suis sûre qu'on en a fait tous l'expérience une fois ou l'autre. Un désir qui touche à quelque chose de plus élevé que nous. À quelque chose qui est au-delà de l'humain. Une maman un jour me disait en regardant sa fille, comment est-ce que c'est possible d'aimer autant ? Et elle touchait là, je pense, à quelque chose de mystérieux, d'inexplicable, quelque chose de divin. Et puis, osons le dire, lorsqu'on se trouve dans les bras de celui ou celle qu'on aime, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de divin là aussi ? Ou lorsqu'on vit des moments d'intense amitié. Ce sont des expériences qui nous dépassent, qui transcendent nos capacités humaines à aimer et qui nous font dire, mais d'où peut venir un amour aussi beau, un désir aussi sublime, d'où autrement que de Dieu. Alors ce désir dont j'essaie de vous parler et dont parle le cantique, c'est bien sûr tout autre chose que la convoitise. Il ne s'agit pas là de convoiter un sac à main ou une femme, au sens de vouloir le posséder, la posséder, la garder pour soi. Et ce n'est pas pour rien que la convoitise est un des interdits des 10 commandements. La convoitise, c'est une forme malade du désir, une forme de meurtre de l'autre, si on veut, au travers de l'envie de posséder ses biens, sa personne tout entière. Mais le cantique parle de toute autre chose. Cette chose frappante quand on lit le texte, je vous l'ai déjà dit, on a l'impression que l'homme et la femme passent leur temps à se chercher, à se trouver, puis à se rater, à s'échapper, à s'enfuir même parfois. Le verset que vous avez lu, où la Shulamite dit « Mon chéri est à moi et je suis à lui ». Et puis, deux versets plus loin, elle dit « Retourne-toi sur des monts séparés ». Et puis, un peu plus loin, un passage qu'on n'a pas lu au chapitre 5, elle dit « J'entends mon chéri qui frappe de nouveau. Je me lève pour ouvrir, mais mon chéri s'est détourné. Il a passé. Hors de moi, je saute à sa suite, je le cherche, mais ne le rencontre pas. Je l'appelle, mais il ne me répond pas. » Et ce qui fait dire aux filles de Jérusalem, aux compagnes de la Shulamite, « Où est allé ton chéri ? Où est allé ton chéri ? Ô la plus belle des femmes ! Où s'est dirigé ton chéri ? Que nous le cherchions avec toi. » Ce chassé-croisé incessant qu'on connaît bien dans nos relations, que ce soit dans nos couples, nos familles, nos amitiés, on se cherche, on se rate, on n'a pas envie toujours de faire la même chose en même temps, on se fâche, on se boude, et puis tout d'un coup, on se retrouve. Car le désir dont il s'agit là ne peut pas enfermer l'autre. Il ne peut que le laisser libre de courir là où il veut. Ce désir nous permet de cueillir quelques instants sacrés d'éternité, puis nous oblige à retourner à notre vie, à laisser l'autre retourner à la sienne librement. Et on connaît bien en psychologie les dégâts terribles de l'amour-fusion de ces relations où on voudrait bien que ces instants d'union privilégiés durent sans cesse et où on finit par se détruire mutuellement à force de se fondre l'un dans l'autre dans ce désir. Et ça, c'est une autre dérive mortelle du désir, un mécanisme qui nous pousse à nous enfermer avec l'autre dans ce désir parce qu'on ne supporte pas de souffrir lorsqu'il s'en va. Alors ces instants d'union sacrée du cantique ne peuvent être que fugaces. Voilà pourquoi les deux amants ne font que se chercher et se rencontrer puis se séparer de nouveau. Ces instants ne peuvent être que suivis de la douleur d'être séparés l'un de l'autre. Une douleur finalement qui se mélange aussitôt à la joie de se retrouver bientôt. Mais par contre, lorsque le désir nous anime et qu'on parvient à se rencontrer, alors c'est vraiment extraordinairement beau. C'est l'union mystique des moines du Moyen-Âge. C'est cet instant béni où nous avons le sentiment que Dieu est là, juste à côté de nous. Car je pense que le cantique a été placé au milieu de nos textes sacrés et que peut-être pas pour une raison précise, c'est que il veut peut-être nous dire que c'est bien au même moment que ces deux choses se passent. L'instant sacré et fugace de l'union entre deux êtres et puis l'instant sacré, fugace également, où Dieu se manifeste. Peut-être bien qu'on ne peut pas séparer ces deux choses. Notre désir de Dieu, notre désir d'amour ne sont peut-être aussi qu'une seule et même chose. Et dans ce cas, notre désir de Dieu est fait de la même nécessité de laisser l'autre libre de venir nous visiter lorsqu'il en a envie. Et lorsque nous avons l'impression que Dieu joue à cache-cache avec nous, qu'il ne se laisse pas voir, c'est qu'en fait nous sommes simplement en train de vivre une relation vivante avec un Dieu qui ne veut pas se laisser enfermer, qui veut être avec nous comme est l'amoureux avec la Shulamite. Non pas un objet de désir, mais disons un objet de désir, oui, mais non pas un désir qui enferme, mais une personne vivante, libre. Une personne qu'on peut parfois rencontrer dans ces instants sacrés, fugaces, d'union privilégiée, puis une personne qui s'en retourne par d'autres chemins, nous laissant vivre notre vie. Alors voilà, au cœur des textes sacrés de notre Bible, ce cantique est là, pour que nous n'oublions jamais cela. Ce qui est le moteur de notre foi, de notre vie avec Dieu, de notre vie dans ce monde, de notre vie avec les autres, ce ne peut être que le désir de la rencontre avec lui, avec l'autre. Un désir alimenté par ces instants fugaces d'éternité que nous pouvons vivre lorsque la rencontre se produit. Et tout ce que nous faisons pour cultiver ce désir, lire notre Bible, aller au culte, nous engager pour notre Église, tout ça ne devrait être que le fruit de ce désir ou une manière de cultiver ce désir, rien d'autre. Car c'est lorsque nous savons écouter ces désirs profonds de notre vie, ce désir de plaisir, d'amour, de bonheur, de plénitude, de plus en plus profondément au fond de nous, c'est là peut-être que peut s'ouvrir de temps à autre la porte du ciel. Amen.